Ça voudrait dire que on vient entraîner, du coup, garder, enfin, construire de la force musculaire pour pouvoir vivre en bonne santé plus longtemps. Vous ne vous entraînez pas pour une performance sportive, vous vous entraînez pour pouvoir faire face à votre quotidien, c'est-à-dire porter ses enfants sans douleur, porter ses courses aussi sans douleur, pouvoir monter facilement les escaliers, pas être essoufflé. Et ça va dans ce sens-là, donc je pense que c'est plutôt un positif, je trouve.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti!
Avez-vous déjà vu ces retraités très actifs à la salle qui brillent par leur exploit sportif et leur longévité? Jeannie Longo, Alain Gustave, Ginette Bédard qui courent le marathon à 80 ans, mais il y en a bien d'autres. Ces personnes ont probablement toutes un point en commun, elles ont compris que la force est un pilier essentiel pour bien vieillir. Et oui, le renforcement musculaire n'est pas seulement une affaire de performance, il conditionne notre mobilité, notre équilibre, notre énergie et même notre capacité à régénérer le corps plus que des muscles. C'est donc une véritable assurance vie. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble le lien entre force, muscles et micronutrition, un trio qui pourrait bien être la clé de ce que certaines personnes appellent désormais le strongevity, la longévité par la force. Alors pourquoi développer sa force est essentiel à tout âge, comment progresser intelligemment et durablement, quel rôle jouent la motivation, la régénération, l'alimentation et la micronutrition dans tout ça, et surtout, que font les pros pour rester performants et inspirants aussi longtemps? On voit tout ça avec notre nouvel invité, Alban Colo. Bonjour Alban.
Bonjour Noémie, merci pour l'invitation, je suis ravi d'échanger avec toi sur ce sujet aujourd'hui.
Ah ouais, je suis très curieuse de ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui. Tu es diététicien, micronutritionniste, expert en nutrition sportive, puisque tu as accompagné à ce jour plus de 30 athlètes de haut niveau, et ce, dans beaucoup de disciplines différentes. Tu as même une double casquette, on pourrait dire, de nutritionniste, de préparateur physique. En fait, tu vois ça en globalité, et puis même concrètement avec l'accompagnement du sportif. T'as même un organisme de formation qui s'appelle Optimis Plus, et c'est plutôt pour les pros aussi, mais cette fois-ci de santé, pour accompagner les sportifs ou les autres, les sportifs passionnés qui veulent optimiser leur santé, leur micronutrition, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a dans les formations de base, on n'a pas forcément toutes les notions pour bien prendre en charge ce public qui est un peu spécifique, mais par contre qui est très demandeur et très volontaire justement sur la micronutrition. Et du coup, depuis janvier 2025, effectivement, organisme de formation pour apprendre aux professionnels de santé à mieux prendre en charge les sportifs en cabinet.
Ouais, surtout, historiquement, les sportifs, c'est les premiers consommateurs de compléments alimentaires. Donc, c'est pas étonnant, mais c'est marrant que tu dises, toi, maintenant, qu'on ne prend pas bien en charge les sportifs, alors que pourtant, c'est eux qui ont commencé.
En fait, c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a une vraie cacophonie dans la nutrition et on a tendance à donner des conseils qui vont être adaptés pour un public sédentaire, mais beaucoup moins pour les sportifs. Donc, ça permet de remettre un peu de nuance et un peu plus de cadre dans tout ça.
C'est l'étape d'au-dessus, en fait, où il faut aller un peu plus dans le détail.
Ouais, c'est une corde supplémentaire à son arc.
Ok. Avec Sandé, je pose toujours la question du dimanche, c'est important pour nous. Toi, perso, tu fais quoi pour te mettre en mouvement le dimanche?
Alors, le dimanche matin, quand je me réveille, souvent, il y a eu un peu tous les séquelles, les entraînements de la semaine. Parce qu'en dehors de mon activité au cabinet, je vais avoir aussi des moments pour moi où je continue de m'entraîner. Et du coup, mon moment, je vais faire un petit peu de mobilité, un peu d'étirement, je vais envoyer un peu de souffle, un peu d'énergie, un peu de respiration dans les endroits où je sens que c'est un peu endolori. Donc certains, il faut pas leur parler avant d'avoir pris le café, Bah moi, c'est, il faut commencer à me parler une fois que j'ai fait ça et que j'ai pris le temps de faire un petit peu un scan corporel.
Ah ouais, donc tu es toujours en mouvement, même si tu fais beaucoup de mouvements la semaine, c'est ça?
Ouais, alors là, ça va être plus quand même travailler sur la respiration, juste s'étirer un peu, baisser la colonne vertébrale, essayer de toucher un peu ses orteils, voir, bon, bah là, c'est un petit peu tendu, etc. Et après, mon dimanche peut bien démarrer. Mais en fait, par le passé, j'ai eu un grave accident et j'ai eu pas mal de séquelles que j'ai traînées pendant longtemps. Donc le réveil a souvent été très très compliqué pour moi et j'ai un peu ces restes-là de me lever, de faire un petit peu un scan en me disant « Ok, là ça va, mon système nerveux, il est calme et je peux démarrer. »
Te mettre sur pied carrément,
ouais, voilà, littéralement. C'est ça. Voilà, exactement.
Avant d'aller dans le détail du sujet, j'ai un peu introduit quand même précédemment. Je voulais te donner un peu plus de contexte. En fait, dans l'épisode 3, on était même là dans ce studio ici avec Anouk Valette, qui est coach sportive. Elle m'avait dit que le meilleur moyen de se remettre au sport, c'est de commencer par le renforcement musculaire. Du coup, j'étais un peu curieuse. Et dans le terme renforcement, en fait, il y a le mot force. Et je voulais en fait voir ce qu'on disait sur la force, sur les muscles, parce qu'on en a parlé aussi dans d'autres podcasts, dans le contexte de la santé et de la longévité. Et en fait, il y a de nombreuses études en gérontologie notamment et en médecine du sport qui montrent que la force musculaire est un indicateur prédictif de la longévité et de la qualité de vie, voire même que la force de préhension, c'est-à-dire en fait la poignée de main, peut être utilisé comme biomarqueur de santé dans le risque de mortalité et de déclin cognitif. En plus de ça, l'OMS recommande aux adultes, y compris aux seniors, de pratiquer du renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine pour maintenir leur autonomie et la vitalité. Et puis, finalement, c'est aussi approuvé par les gériatres pour lutter contre la sarcopénie, le fait de perdre du muscle avec l'âge. Alors... En fait, ici, dans le podcast à Healthwise, on a une majorité de femmes qui nous écoutent pour qui peut-être la force, les muscles, comme moi, c'est pas vraiment une priorité. Est-ce que tu peux maintenant nous convaincre de développer notre force et nos muscles avec tes mots à toi?
Ok, alors je vais essayer. C'est vrai que tu l'as dit, la force est l'un des plus gros prédicteurs de longévité. Il y a également aussi la vitesse maximale aérobie, mais on pourra peut-être y revenir lors d'un autre podcast, mais... Plus de muscles, tu vas avoir un meilleur contrôle au niveau de ta glycémie, une meilleure sensibilité à l'insuline, donc ça va prévenir tout ce qui est maladies cardiovasculaires, les maladies de civilisation qu'on entend de plus en plus. Tu vas aussi pouvoir avoir un meilleur équilibre, éviter tout ce qui va être chute liée à l'âge. Et puis, tu vas également avoir, on en a parlé donc au niveau de l'équilibre de la glycémie, mais aussi avoir une bonne masse musculaire, ça va éviter de mettre trop de contraintes au niveau de tes articulations. Et on va le voir par la suite. Mais c'est vrai que, passé 30 ans, on a déjà des mécanismes qui se mettent en place que si on ne stimule pas nos muscles, eh bien, on va commencer à perdre gentiment en masse musculaire. Donc, c'est un médicament qui coûte zéro, à part un petit peu de discipline, au même titre qu'on entend... La méditation, c'est acquis chez tout le monde qu'il faut se brosser les dents le matin. Et je pense qu'il faudrait aussi, et les générations futures, ça va être un peu plus ancré, je pense, faire du renforcement musculaire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai convaincu les gens.
Moi, je pensais peut-être, si tu as des chiffres en tête, ou en tout cas des estimations pour toi, combien on perd de muscles au fur et à mesure des années, peut-être?
Alors... tu vas avoir, à partir de 30 ans, si tu ne stimules pas, tu as une perte d'environ 3 à 8% par décennie. Et ça s'accélère vraiment à partir de 60 ans. Et c'est là où tu vas avoir plus de risques de blessures, des pertes d'équilibre, plus de contraintes au niveau de tes articulations. Donc, c'est vraiment important de réussir à mettre en place une routine où tu vas venir faire des exercices de renforcement musculaire. Alors, sans forcément partir sur des choses très, très complexes, mais simplement, on y reviendra. Se relever d'une chaise sans assistance, ça peut paraître très simple comme ça, mais c'est des choses sur lesquelles il va falloir s'entraîner avec le temps.
Pas faire ça et hop, on se relève.
C'est ça.
Ouais. Du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un bon niveau de muscles le plus tôt possible, avant 60 ans, tu disais même.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut faire, c'est travailler sa force et sa masse musculaire, dans l'idéal, à partir du moment où tu vas avoir les plus gros facteurs d'anabolisme, avec tout ce qui va être testostérone, etc. Donc de l'adolescence jusqu'à 30 à 35 ans, réussir à te construire un capital le plus important possible, et ensuite ne jamais cesser de le stimuler pour pouvoir réussir à garder un peu ses adaptations tout au long de la vie.
Et si ma mère a passé la cinquantaine pratiquement et que là on lui dit à 60 ans ta musculature va chuter, est-ce que c'est possible de faire quand même quelque chose? Je veux dire, est-ce que c'est quand même utile de s'occuper de ses muscles même avant?
Carrément, il n'y a pas d'âge pour démarrer. Il y aura forcément une adaptation qui sera moins importante si elle démarre à 60 que si c'est quelqu'un qui a démarré beaucoup plus jeune. Mais tu peux déjà créer un stimulus qui sera bénéfique. Et les résultats sont beaucoup plus rapides que de mettre en place des bonnes habitudes avec la nutrition et la micronutrition. Oui. Le renforcement musculaire donne vraiment des résultats à court terme qui sont déjà très importants. Alors ça peut être des choses, si on prend là, l'exemple que tu m'as donné, ça peut être donc apprendre effectivement à se relever sans se tenir, ça peut être également suivre une ligne au sol et pas en sortir pour travailler également l'équilibre, et puis commencer à soulever des charges, alors adaptées. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre 100 kilos en back squat directement sur son dos, mais déjà juste réussir à faire des patterns de mouvement qui vont l'aider dans son quotidien pour porter les courses.
On parle de plus en plus de strongevity. En tout cas, en Allemagne, on a fait carrément un épisode là-dessus.
Okay.
Ça veut dire la longévité par la force. Mais pour toi, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu en as déjà entendu parler?
Alors, non, c'est un terme que je découvre.
Ok.
Je sais pas s'il a une paternité scientifique officielle, mais en tout cas, il est hyper positif et hyper parlant. Ça voudrait dire que, on vient entraîner, du coup, garder, enfin, construire de la force musculaire pour pouvoir vivre en bonne santé plus longtemps. Je trouve ça hyper positif. C'est un peu ce que le mouvement CrossFit, lorsqu'il est arrivé en France dans les années 2010, a mis en avant, dans le sens vous ne vous entraînez pas pour une performance sportive, vous vous entraînez pour pouvoir faire face à votre quotidien, c'est-à-dire porter ses enfants sans douleur, porter ses courses aussi sans douleur, pouvoir monter facilement les escaliers, pas être essoufflé. Et ça va dans ce sens-là, donc je pense que c'est plutôt positif, je trouve.
Si, comme moi, pour l'instant, je ne fais rien comme renforcement, rien comme sport, à part marcher le plus que je peux, ce serait quoi les conséquences visibles pour moi à 50 ans, à part les exemples qu'on a dit là dans le quotidien, porter ses courses, porter mes enfants, etc.
Alors, si, admettons, tu vas juste faire de la marche, c'est déjà une bonne chose, ça va permettre aussi de travailler quand même, en tout cas de maintenir une certaine endurance de base. Les conséquences à 50 ans, c'est une perte de masse musculaire, voire même si on rajoute à ça les personnes qui vont être avec des syndromes métaboliques, etc., ça va même amplifier cette réponse négative. Comme je te l'ai dit avant, la sarcopénie, c'est le fait de perdre de la masse musculaire liée à l'avancée dans l'âge. Et donc, on perd entre 3 et 8% par décennie. À partir de 60, ça va s'accentuer. Donc, ce qui peut apparaître, c'est un syndrome métabolique qui va s'installer beaucoup plus rapidement avec un métabolisme qui va se mettre à ralentir.
On peut faire juste une parenthèse sur syndrome métabolique. Je l'ai entendu une seule fois dans un podcast, peut-être parce que je pense que c'est pas si clair pour tout le monde.
Ok. Alors, le syndrome métabolique, c'est un syndrome qui est défini avec certains critères que l'on va retrouver dans des anomalies par rapport aux prises de sang qu'on va faire, notamment un certain taux de cholestérol qui va être trop important, un certain taux au niveau des marqueurs du foie qui vont aussi être perturbés. On va retrouver également un tour de taille plus important qu'une certaine norme. Donc, ça veut dire que lorsque tu vas consommer certains nutriments, notamment les glucides, eh bien, tu vas moins bien les gérer, tu vas avoir des mises en réserve qui vont être beaucoup plus importantes. Voilà, en gros, ce que c'est un syndrome.
Et ça touche aussi les gens plus âgés, du coup.
Oui, totalement. Et c'est lié aussi à la perte de masse musculaire, puisque, on le verra par la suite, mais le muscle, c'est un vrai organe endocrinien et qui va nous permettre d'avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Et puis, bien entendu, on en a parlé juste avant, mais tu vas avoir plus de risques de faire des chutes, une perte également de la densité osseuse, ce genre de choses.
Du coup, on disait que les personnes qui avaient ce syndrome métabolique, elles pouvaient avoir un tour de taille qui était un peu plus élevé ou du coup pas forcément dans certaines normes. Est-ce que ça pourrait avoir un lien, le fait d'avoir une bonne masse musculaire et gérer le poids?
Oui, totalement. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui mettent en avant le fait que la force musculaire, notamment la force de préhension quand tu t'en as parlé,
voilà.
La poignée de main, serait un meilleur prédicteur de longévité que l'IMC. On s'est rendu compte dans ces études qui ont été faites quand même sur un énorme panel de personnes avec des catégories de population très variées, que les personnes qui avaient une force de préhension la plus faible, avait des risques de mortalité, toutes causes confondues, qui s'élevaient de 20 à 30 %.
L'IMC, en fait, c'est le poids, et donc avoir de la force, on peut vivre un peu plus longtemps que si on avait un meilleur poids.
C'est ça, exactement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de mettre de plus en plus en avant qu'il faut oublier un peu l'IMC et puis regarder...
Okay.
Regarder d'autres choses.
Oui, c'est pas que l'alimentation et c'est pas que cette partie du corps, c'est vraiment corps en entier, voire même...
Bien sûr.
Et du coup, si on veut avoir une bonne force, comment on estime en fait qu'on a une bonne force? Si moi, je te serre la main, tu vas me dire « Ah ouais, non, pas terrible, Noémie. On fait comment le test ?»
Ok, alors, il y a des tests qui sont assez faciles à mettre en place. Et il y a quelques mois, j'ai assisté à une conférence... de Myriam Okel, qui est coach sportive et également spécialisée en micronutrition. Elle faisait une conférence sur le lien entre santé mentale et muscles. On y reviendra dans le podcast. Du coup, je trouve que c'est important de dire à chaque fois d'où viennent nos sources et de citer les gens. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Donc, Myriam avait dit deux tests. Le test de la suspension.
Okay.
C'est-à-dire, tu viens te suspendre à une barre de traction. Et ouais, bras tendus, voilà, tes pieds ne touchent. Les pieds ne touchent pas le sol et il faut que tu restes suspendu le plus longtemps possible.
Ok, genre et... Fort Boyard, il ne faut pas que je tombe dans l'eau. Quoi.
Ouais, et bras tendus.
Ok.
Et à ton avis, il faudrait que tu restes combien de temps à peu près pour être en bonne santé?
Moins d'une minute peut-être, quelque chose comme
Alors il faudrait que tu sois au minimum une minute, voire une minute trente.
Ah ouais, c'est long.
Ouais, c'est long. Et ça, c'est le premier test.
Ok.
T'en as un autre, c'est le test de porte de charge. C'est-à-dire, t'imagines que tu vas avoir deux poids de chaque côté de toi, donc à gauche et à droite, voilà, comme si tu voulais soulever pour porter deux packs d'eau.
Mm-hmm.
Eh bien, on va voir combien de temps tu vas être capable... Enfin, pardon, pas combien de temps, mais quelle charge maximale tu vas pouvoir tenir dans tes mains pendant une minute. D'accord ? Et à ton avis... Pour être considéré en bonne santé et se dire « j'ai pas besoin de faire du renforcement musculaire », il faudrait que...
Combien de packs d'eau, c'est ça?
Ouais, alors j'ai pas forcément l'équivalence en packs d'eau, mais en poids, par contre, je pourrais te dire la totalité dans tes deux mains, combien il faudrait que tu portes.
En valise, pour une minute, sur les deux, je peux faire peut-être plus de 15 kilos.
Ok.
Je pense. Pour une minute, c'est bien. Mais en marchant, on...
Juste en les tenant.
Juste en les tenant. Ouais, je dirais entre 15 et 20.
Ok. Je suis capable de me redresser et de les tenir à bout de bras pendant une minute. Je te prends mon exemple.
Ouais.
Du coup, je fais environ 75 kilos.
Mm-hmm.
Eh bien, pour être considéré en bonne santé, il faut que je sois capable de soulever en totalité mon poids de corps. C'est-à-dire entre 35... et 40 kilos dans chaque main, et tenir pendant une minute. Si tu ne réponds pas à ces deux tests de façon favorable, ça veut dire qu'il faut faire du renforcement musculaire.
Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, je pense que tu as convaincu beaucoup de personnes, parce que je connais peu de personnes qui prennent 75 kilos, 75 litres d'eau dans les deux bras pendant une minute.
Ouais.
C'est énorme.
Donc, on remercie Myriam pour les deux tests. Si elle regarde le podcast, je suis sûr qu'elle appréciera.
Mais en fait, moi, je t'ai dit 15 à 20 kilos, Donc, j'imagine pas, en fait, dans 30 ans, comment je vais être. Après, faudra sûrement qu'on me porte mes courses. Donc, je vais pas être super autonome. Et donc, si je suis toute seule, j'ai plus mon mari. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Et j'imagine que ça, c'est un exemple que les gens peuvent vraiment s'imaginer. Donc voilà, au moins tu nous as convaincus un petit peu. J'avais donné l'exemple de la poignée de main. Est-ce que tu as d'autres exemples scientifiques qui montrent le lien direct entre force musculaire et espérance de vie, si tu en as d'autres?
Ouais, j'en ai un autre qui me vient en tête. Il y a une étude qui a été réalisée sur des jeunes qui n'avaient jamais fait de musculation. On leur a fait suivre pendant 8 semaines un entraînement de musculation classique.
C'est court, 8 semaines?
Ça permet de créer déjà des adaptations, on considère, en tout cas chez quelqu'un qui n'a jamais fait de renforcement musculaire, au bout de 6 à 8 semaines, tu as déjà des adaptations qui se font.
Ouais. Quand tu disais court terme, moi je pensais quelques mois, mais...
Ah ouais, non, ça peut être vraiment très, très rapide.
Okay.
Et c'est aussi ça, moi je sais qu'avec mes patients, bien entendu, j'ai 80% de ma patientèle, c'est des sportifs, mais j'ai aussi des personnes qui viennent au cabinet et le motif de consultation, ça va être... prends l'exemple de façon bienveillante à chaque fois quand ils arrivent et qu'ils me disent bah, « moi, je voudrais perdre du poids ». Donc, je leur pose la question « pourquoi vous voulez perdre du poids ?» Et en motif de consultation, je mets toujours, je trouve ça beaucoup plus bienveillant, « améliorer votre comportement alimentaire pour dériver vers un poids d'équilibre ». Voilà, je trouve ça un peu plus bienveillant. Et c'est un des outils qu'on va avoir qui leur permettent de peut-être prendre plus soin de leur assiette parce qu'ils voient des résultats tout de suite avec la mise en place
du... Le reward à la fin,
c'est
la gratitude pour soi-même.
Carrément. Et du coup, tout ça pour dire que... dans cette étude, pendant 8 semaines, à l'issue de ces 8 semaines, bien entendu, ils avaient pris de la force et de la masse musculaire, mais il y avait notamment les marqueurs au niveau de l'humeur qui s'étaient améliorés. Donc, on y reviendra sur le lien avec la santé mentale. Et puis, tu avais un marqueur de perméabilité intestinale qu'en micronutrition, on fait doser souvent, qui est la LBP et qui avait baissé de 15%.
Ah, c'est intéressant.
Ouais, donc non seulement tu as un énorme lien entre l'axe muscle et les intestins, cette perméabilité intestinale va s'améliorer. Donc, qui dit une moins grande porosité intestinale, eh bien, tu vas avoir moins d'inflammation et donc forcément, ça va avoir des impacts sur tout un tas de choses comme la régulation de la glycémie, etc.
Donc, c'est vraiment un booster de santé en général, pratiquement.
Carrément. Alors après, le trop peut faire aussi l'effet inverse. Mais bon, on y reviendra aussi. Mais...
Bah, surtout, oui, quand je voulais te poser des questions sur les sportifs de haut niveau.
On va pouvoir
voir ça.
Voilà.
Et en plus, tu disais dans l'étude que c'était des jeunes, donc c'est vraiment à tout âge, on peut faire ça. Donc, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux comme ma mère, là, par exemple, pardon maman, on peut vraiment s'y mettre.
À tout âge. Carrément, en fait, quand tu nais, une des premières capacités que tu as, ça va être de te mouvoir, quoi, et de bouger. Et alors, c'est un avis très personnel, mais on nous demande souvent, quand t'es petit, il faut que tu saches lire, écrire, compter. Donc,
se brosser les dents.
Voilà, c'est des capacités fondamentales. Mais je pense que la capacité aussi de se mouvoir, elle devrait être au même rang. Aujourd'hui, les jeunes générations, on se retrouve un peu avec une fracture sociale. Mais je trouve qu'il y a aussi, on peut parler peut-être de fracture motrice, dans le sens où c'est prouvé, les jeunes ont une moins bonne coordination, ont une vitesse maximale lors des entraînements physiques qui est abaissée, une force maximale aussi qui est diminuée. Et je pense que c'est important de les amener, alors peut-être beaucoup plus avec de façon ludique, et pas de se dire que renforcement musculaire, musculation, c'est associé à culturisme, mais que ça va leur permettre d'avoir une meilleure posture, de limiter l'apparition de scoliose, d'avoir aussi une meilleure confiance en soi. Ça, je pense que ça a un impact positif sur l'image du jeune de se rendre compte de ce que son corps est capable de faire.
Pas de ligaments croisés, ce genre de choses.
Chez les jeunes ?
Ouais, non, parce qu'on dit souvent, tu sais, j'ai fait du foot quand j'étais jeune et j'ai pas pu être pro parce que j'avais les ligaments croisés.
Les croisés, tu connais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en plus, aujourd'hui, les jeunes quand même mettent vraiment, vraiment en valeur tous les stars sportives sur les réseaux sociaux. On va aussi avoir pas mal de déviants sur le fait de vouloir avoir des résultats alors extrêmement rapides. Je suis en train de dire qu'on a des résultats rapides, je trouve, quand on met en place un programme de musculation. Mais tu as aussi vraiment la surenchère où on va essayer de faire partir rapidement sur les dérives du dopage ou même vanter des résultats formidables avec de l'électrostimulation. C'est à nous, les éducateurs, les parents, les enseignants, d'amener l'enfant à lui inculquer une discipline vertueuse. Et puis, après, s'il est intéressé par ça, eh bien, pourquoi pas transférer après vers une performance sportive. Mais en tout cas, de se dire que mentalement, déjà, ça ne peut que lui faire du bien.
Femme, homme, c'est vraiment, ça joue sur l'humeur. Ouais. Donc je prends ça avec moi et je le garde. Je vois aussi à Berlin, là où je vis, des groupes de retraités, et même là en passant au Butchemont, j'en ai vu beaucoup, qui faisaient du tai chi. Est-ce qu'on peut voir aussi le renforcement comme une forme de méditation en mouvement, en plus de savoir que ça booste l'humeur?
Ouais, t'as raison, moi je m'en suis rendu compte. Alors là, tu parlais des Butchemont et c'est très bien, mais je trouve que dans certains pays étrangers, j'ai eu la chance de partir quelque temps à Pékin cette année. Et les parcs municipaux sont. Les gens sont. Enfin, il y a beaucoup de seniors, des personnes qui ont au minimum 60, même plus de 70 ans, qui sont sur tous les appareils de musculation mets dans les parcs.
Les services dehors, ouais.
Qui chez nous, j'ai l'impression, sont plutôt en train de rouiller. Là-bas, c'est limite,
il y a la queue, quoi.
Mmh. Et j'ai vu des personnes de plus de 70 ans faire des choses à des agrès, aux anneaux, à la barre fixe, où même moi, je m'entraîne encore pour ça et les difficultés. Et eux continuent de le faire, d'aller dans des amplitudes incroyables. Et t'as raison, quand tu parles de forme de méditation, quand tu commences à faire certains exercices un petit peu complexes, t'es obligé un peu plus de te connecter à tes sensations, à faire attention à la respiration, à regarder si t'es bien équilibré sur ta jambe gauche, ta jambe droite, etc. Donc, ouais, carrément, c'est une forme de méditation en mouvement, oui.
Moi, je passais devant, c'était paisible, c'était agréable à regarder. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait une énergie qui était apaisée par rapport à la salle de sport, où ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Ouais, je voudrais qu'on revienne un peu sur les blessures et les chutes qui sont assez courantes et qui peuvent être problématiques justement pour les personnes âgées. Moi, je le vois autour de moi, le nombre de grands-parents qui sont tombés parce que la baignoire est trop haute, la cuisine est trop basse. C'est hyper dangereux dehors dès que ça glisse et ils ne peuvent pas se relever. Je ne veux pas du tout faire culpabiliser les personnes. Je ne suis pas du tout placée pour ça. Tu aurais dû faire du renforcement musculaire, ça aurait allé mieux. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser les blessures de ces chutes-là qui font très mal, probablement juste à cause du poids de corps?
Concrètement, ce que tu vas pouvoir mettre en place... Alors, je rebondis un peu par rapport à ce que tu as dit sur le fait de voir certaines personnes pratiquer dans les parcs en extérieur.
Ah ouais.
Tout ce que vous pouvez faire en extérieur, je pense que c'est... À mon sens, c'est mieux. Moi, j'invite vraiment mes patients à essayer de faire en sorte qu'ils pratiquent en extérieur parce qu'on s'est rendu compte, et c'est Anthony Berthoud qui en parle très bien, c'est qu'on a des récepteurs à la lumière du jour. Et nos centrales énergétiques, nos mitochondries, réagissent à ces récepteurs et vont pouvoir produire beaucoup plus d'énergie. Donc, pour faire un parallèle, potentiellement, tu vas faire la même activité sur un tapis enfermé dans une salle, dans le noir, avec une lumière forte, artificielle.
Ouais.
Tu n'auras absolument pas les mêmes bénéfices que si tu pratiquais la même chose en extérieur. C'était un peu un parallèle. Donc, même pour répondre à ta question, pourquoi pas pratiquer en extérieur? Et ce qu'on peut faire...
Faut juste pas glisser dehors, quoi.
C'est ça, exactement. chez les personnes qui n'ont pas l'habitude, maintenant dans les centres, même en EHPAD, etc., on va avoir de plus en plus de professionnels spécialisés qu'on appelle APA, activité physique adaptée, qui vont pouvoir remettre les gens en mouvement. Donc, j'en parlais tout à l'heure, mais effectivement, la coordination, juste réussir à pouvoir marcher en équilibre le long d'une ligne, faire des exercices où tu vas commencer avec des petites charges et puis augmenter progressivement. Qu'est-ce que tu peux avoir également? Les exercices, le fait de réussir à se relever facilement sans toucher, sans t'appuyer sur quelque chose. Et je sais que même pour les gens qui ont entre 30 et 40 ans, peut-être voir leur entraînement, non pas comme une performance sportive, mais un leitmotiv qui va leur permettre justement de rentrer le plus tard possible en EHPAD. Et moi, je dis toujours, si je dois aller en EHPAD, la porte d'entrée, je la passerai en marchant sur les mains. Voilà,
comme Anouk, du coup.
c'est ça, exactement.
Tout à l'heure, je mentionnais aussi que la force de préhension, donc la fameuse poignée de main, elle était aussi étudiée dans la prévention du déclin cognitif.
Oui.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce lien-là, ce rôle dans la santé cognitive ou le maintien des capacités mentales, en tout cas avec l'âge?
Oui, il y a un très fort lien et qu'on est en train de plus en plus mettre en avant entre le muscle et le cerveau. On parle beaucoup de l'intestin, mais il y a aussi un gros lien muscle-cerveau. C'est en Angleterre, ils ont fait une grosse étude, je crois, sur 500 000 personnes et ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient la force de préhension la plus faible avaient 70% de risque de démence en plus. Et attends, c'est pas fini parce que lorsque tu perdais à chaque fois plus de 5 kilos sur donc la force de préhension, la force de le fait de serrer quelque chose fort dans tes mains, à chaque palier de 5 kilos, ce risque de démence augmentait de 20%. Donc, c'est énorme. Alors, pourquoi? Parce que le muscle, en fait, c'est un véritable organe endocrinien. On a les glandes, donc la glande thyroïde, les glandes surrénales. Maintenant, on parle également du muscle vraiment comme un organe endocrinien parce qu'il va libérer des molécules qui vont aller partout dans ton corps, notamment lors de l'effort que l'on appelle les myokines. Et ces myokines, lorsqu'elles arrivent au cerveau, vont favoriser la production de nouveaux neurones. Donc tout ça mis au global va te permettre d'avoir, faire tout simplement, c'est un médicament naturel pour ton cerveau.
Donc en fait, bouger, entretenir sa masse musculaire, vraiment, c'est, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est pas seulement pour éviter les chutes, c'est pas seulement pour éviter les fractures et tout, c'est vraiment longévité sur tous les points.
Et je pense que ça nous permet de mettre en place des habitudes sur le long terme si on se dit « je ne suis pas en train de faire de la musculation uniquement pour avoir un beau corps ». Il faut vraiment sortir de ça et se dire que potentiellement, ça va me permettre de consommer beaucoup plus facilement des féculents. Ça va me permettre de faire aussi des écarts beaucoup plus souvent en termes d'apport énergétique. Le corps va beaucoup mieux se réguler. Donc ça permet d'avoir aussi une alimentation, à mon sens, un peu moins, un peu plus sereine, je pense.
Il y avait le docteur Curtay dans l'épisode 5 du podcast Healthwise qui avait aussi présenté le muscle comme utile dans la perte de poids parce que, en fait, c'est... le muscle consomme énormément d'énergie, tu le disais là par exemple avec les glucides, mais au repos, ce qui est super. Du coup, voilà, c'est ça que j'ai appris dans la perte de poids. Maintenant, une fois qu'on a fait ce renforcement musculaire, qu'on a commencé les routines, comment on fait pour que ça reste? C'est quoi la stratégie pour maintenir sa masse? C'est juste la régularité?
Alors, oui, c'est ça, c'est... exercice, et à chaque fois, il faut rajouter le mot régulier. Pareil, je l'emprunte à Myriam, elle l'avait très bien dit lors de sa conférence. C'est vraiment exercice et régulier. Parce qu'en fait, la musculation, c'est un peu comme un abonnement Netflix. Tant que tu payes, tu as accès.
We enjoy.
Voilà, t'es tranquille. Par contre, à partir du moment où tu arrêtes de payer ton abonnement, Donc, tu arrêtes de t'entraîner et de stimuler. Comme ça a un coût énergétique pour le corps, bah, en fait, ton muscle y fond. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours continuer à créer des adaptations, mais il faut créer une adaptation qui te soit propre. C'est-à-dire que les stimulus que je vais mettre sur mon corps ne sont pas les mêmes que toi, tu vas mettre sur ton corps. Et c'est OK. Par contre, ben, comme moi, j'ai été habitué à très jeune à faire de la musculation, ben, potentiellement, si je fais qu'avec des charges légères, je vais déjà commencer à me désadapter. Donc c'est ça aussi un peu le revers de la médaille, mais on répond vraiment voilà, à ce principe d'hormèse. C'est-à-dire que il faut un stress pour créer une adaptation qui soit positive, et ce stress, il doit être suffisant. Mais le mot suffisant, bah, est dépendant de chacun.
Ça veut dire ça, l'hormèse ? J'ai jamais entendu ce mot, c'est pour ça que je te demande.
Ouais, c'est Anthony Berthoud aussi qui en parle beaucoup de ce principe d'hormèse. Ben, c'est tout simplement... Alors, c'est un mot qui vient de la pharmacologie, mais ça veut dire que tout stress va provoquer une réponse adaptative. Un trop grand stress pour l'organisme va désadapter. Un stress insuffisant ne créera pas d'adaptation. C'est une courbe un peu en Gauss, et donc une courbe en Gauss. Et bah, il faut se trouver au milieu. Mais ce milieu, ben, il est dépendant de chacun. C'est pour ça que quelqu'un qui aura couru toute sa vie, ben, lui, s'il veut créer une adaptation, ben, peut-être qu'il va devoir passer sur des distances ou sur des dénivelés plus importants que quelqu'un qui n'a pas couru. Et si tu n'as jamais couru, bah, tu ne vas pas commencer à un premier entraînement à faire une distance marathon.
Là, on a parlé vraiment du terme régulier, donc je pense que ça, on a compris. Donc ça, c'est dans la stratégie pour garder sa masse musculaire. Est-ce qu'on peut aussi aider par l'alimentation et la micronutrition pour garder sa masse musculaire ?
En parlant pas forcément que des protéines, mais faire vraiment au global.
C'est vrai que les protéines, c'est la première chose qu'on nous vient à l'esprit. Mais en vrai, genre, j'imagine que comme le muscle est énergivore, il faut le nourrir. Et il faut le nourrir avec quoi ?
Pour remettre un peu de contexte, stimuler la croissance musculaire, tu vas devoir favoriser l'expression d'une voie de signalisation dans le corps qui s'appelle mTOR.
Les quoi ?
mTOR. M comme M-tor. Mathieu et Thor comme Marvel. Pareil. Okay. Donc ça s'appelle cette voie de signalisation qui s'appelle mTOR. Et pour ça, tu as besoin de trois choses. Donc les protéines, on en a parlé, avec l'ensemble des acides aminés essentiels.
C'est les briques de la vie.
Voilà, c'est les briques, exactement. Et ensuite, il va falloir que tu t'entraînes. Donc, c'est-à-dire soumettre ton corps à un fameux stress physiologique, mais un stress qui soit... encore une fois, suffisant pour pouvoir
s'adapter.
Voilà, s'adapter. Et troisième chose, eh ben, tu as besoin d'un pic d'insuline après l'effort.
Ah ouais. Donc, après l'effort.
Exactement. C'est d'ailleurs, l'insuline est utilisée comme produit dopant dans le monde du culturisme. Tellement c'est important. Donc tu vois, dans certains contextes, on va le diaboliser. S'il n'y a pas d'insuline, qui est un des plus gros facteurs anabolisants, il n'y a pas de prise de masse musculaire. Donc, c'est important d'avoir autour de l'effort suffisamment de glucides. Et là, en plus, ben, je vais aller à l'encontre, mais encore une fois, toute une question de cadre. Il va falloir que tu consommes plutôt quelque chose à indice glycémique modéré ou élevé pour justement favoriser ce pic d'insuline. Si tu n'as pas ces trois choses-là, la croissance musculaire ne sera pas... le stimulus ne sera pas à son maximum. Donc, c'est vraiment les choses qu'il va falloir mettre en place pour favoriser la croissance musculaire. Et puis, une autre petite chose aussi, ça va être la créatine. La créatine, c'est une molécule qui est dérivée des acides aminés que tu vas trouver dans l'alimentation, qui est aussi produite par le corps. Mais si on devait en apporter que par l'alimentation, il faudrait que tu manges des dizaines de kilos de viande. Donc, voilà, c'est pas forcément favorable. C'est pour ça qu'on en donne en apport extérieur. Alors, il y a vraiment beaucoup de détails au niveau du dosage. Mais si je devais donner une norme générale pour l'ensemble de la population, entre 3 et 5 grammes par jour,
Tout le monde peut en prendre.
Ouais, exactement, ouais, bien sûr.
Je sais qu'on la recommande de plus en plus pour les femmes à partir de 50 ans, par exemple.
Exactement.
Et c'est pour garder cette masse musculaire,
ça permet
prévenir l'ostéoporose, etc.
Tout à fait, ça va jouer un rôle sur la prévention de la masse musculaire. Et aujourd'hui, sur des doses beaucoup plus élevées, il y aurait même un intérêt au niveau de la santé cognitive.
Parce qu'on diabolise beaucoup la créatine. Moi, je sais que quand je dis « Ah oui, t'es sportif, tu devrais prendre de la créatine », on me dit « Ah non, c'est un stéroïde, jamais, jamais de la vie ». Mais en fait, tu dis que c'est un des piliers pour le muscle.
Ouais, exactement. En fait, si tu veux, tu vas avoir différentes filières énergétiques lorsque tu vas faire une activité sportive. Et la première filière, majoritairement, elle utilise la créatine, même la phosphocréatine dans le corps, et pour produire de l'énergie, donc de l'ATP, qui est la monnaie énergétique. Et tu vas en avoir surtout besoin pour tout ce qui est les efforts courts et intenses. Mmh. Donc la première chose qui est utilisée lorsque tu fais c'est la créatine. C'est pour ça que voilà, on en entend souvent parler. Ouais. Et effectivement, dans les années 90, c'était considéré comme un produit dopant.
Alors qu'il y en a dans l'alimentation, tu viens de me dire.
Tout à fait, tout à fait.
Donc alors, ça veut dire qu'on se dope tout le temps.
Mais en fait, c'était tellement efficace pour en avoir parlé avec certains grands préparateurs physiques qui ont été de cette génération-là et qui préparaient des athlètes olympiques, te le disent. Moi, j'ai vraiment eu un avant-après et je pense que j'ai même des athlètes qui ont pu se qualifier aux Jeux Olympiques grâce à la créatine. Mmh. Donc, tu vois, c'est pour ça. Souvent, quand les gens me posent la question « Est-ce que je dois prendre de la créatine ou pas ?» Ben, ce que je leur dis, c'est que ça va pas tripler ta croissance musculaire, mais potentiellement, si t'en prends pas, tu peux passer à côté d'une partie de tes gains. Voilà.
Ok. Et pour l'insuline, est-ce que tu disais qu'on avait besoin d'un pic d'insuline, c'est pour ça qu'on a faim après l'effort ?
Oui, probablement. Après, ça dépend des personnes. Sur certains efforts, tu vas libérer aussi des prostaglandines au niveau des intestins qui vont être satiétogènes, donc qui vont couper la faim. Mmh. Ça dépend beaucoup chez les... Ça dépend des personnes et du type d'effort que tu vas faire, okay. Mais si tu es à très haute intensité, tu auras plutôt tendance à avoir... moins fin, ouais. Mais voilà,
en mode survie, quoi.
Ouais, ça dépend.
Ok. Il y a beaucoup de professionnels de santé en général qui recommandent vitamine D, oméga 3, magnésium, zinc, grand classique parce que tout le monde est en carence. Est-ce que ces substances sont aussi utiles pour soutenir la force et la récupération musculaire ?
Ouais, tout à fait. Si on fait un focus pour la force musculaire. Vitamine D, on s'est aperçu, il y a plein d'études qui le montrent, les personnes déficitaires en vitamine D avaient un déficit en force musculaire.
Ah.
C'était corrélé. Donc si tu corriges un déficit en vitamine D, potentiellement, si ta force maximale sur un squat c'est 100 kg, ben, potentiellement tu corriges ton déficit en vitamine D et tu auras peut-être 105 ou 110.
Okay.
Plutôt intéressant. Alors la vitamine D là aussi, plein d'intérêts que... Tes précédents invités ont déjà parlé, mais voilà, en tout cas, si
et
on fait le focus...
pour les fractures aussi, peut-être.
Ouais, les fractures, la densité osseuse, etc. Ça va réguler également au niveau de l'immunité. Le magnésium, c'est un peu la prise électrique du muscle. C'est l'antagoniste du calcium. Donc, en fait, il va permettre d'avoir un bon cycle contraction-relâchement pendant l'effort et même lors des phases de récupération. Les oméga-3, c'est les pompiers, hein, donc ils vont venir moduler l'inflammation.
Mmh. Et surtout quand on fait beaucoup de sport.
Tout à fait, donc ça va être très important lorsqu'on va faire beaucoup de sport pour justement venir moduler cette réponse inflammatoire. Il en faut une, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Le zinc, c'est le couteau suisse.
Ah.
Le couteau suisse qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait une bonne cicatrisation, que la synthèse des protéines musculaires se fasse bien, et c'est un gros régulateur hormonal aussi. Donc,
plutôt partie régénération.
Ouais, et quand je dis régulateur hormonal, le zinc va améliorer les taux de testostérone. Comme c'est un des gros facteurs anabolisants, c'est bien d'avoir un bon taux de zinc également.
Et magnésium, moi je le connais pour les crampes musculaires.
Alors, les crampes, c'est pareil, je pense qu'on pourrait faire tout un podcast sur les crampes. C'est très multifactoriel, mais il est vrai que si tu as des déficits en électrolytes, tu es plus sensible aux crampes. Mais il y a également le stress qui va rentrer en ligne de compte pour l'apparition des crampes et aussi un manque de glucides à l'effort.
Et le magnésium, il a aussi un rôle dans l'ATP ?
Oui, tout à fait. Il va jouer également un rôle au niveau de la production d'ATP. C'est la prise électrique du muscle. En fait, il va avoir un rôle dans il est antagoniste au calcium, donc il va permettre d'avoir des bons cycles contraction-relâchement musculaire. Et puis, on en perd beaucoup au niveau, déjà, lorsqu'on est stressé dans les urines, et puis au niveau de la transpiration, donc c'est vraiment important d'avoir magnésium plus plus 600 mg.
Ah ouais, donc t'es sportif, il faut absolument du magnésium. C'est pour ça qu'ils en prennent dans les électrolytes, par exemple.
Tout à fait, effectivement, t'en as dans les électrolytes.
J'ai aussi entendu dire que les muscles se renforcent pas seulement pendant l'effort, mais surtout pendant la récupération. C'est après, tu disais là avec le pic d'insuline que c'était beaucoup mieux. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe pendant cette phase de régénération et ce à quoi il faut faire attention?
Alors en fait, l'entraînement, effectivement, c'est un peu l'étincelle, mais la récupération est hyper importante. Physiologiquement, tu vas avoir des micro-lésions musculaires qui vont créer une inflammation locale. Et c'est le fait que l'organisme gère cette inflammation qui va te permettre de surcompenser. Donc la récupération, elle est primordiale. Et des fois, c'est un peu compliqué à faire entendre ça aux personnes. Souvent, elles vont s'entraîner beaucoup, mais vont mettre de côté la récupération. Alors que plus on avance vers un niveau élevé, et plus la récupération va être primordiale.
C'est comme si je coupais quelque chose et je rajoutais une couche de bien épaisse pour pouvoir...
Un millefeuille, ouais, exactement. Ouais, donc, tu vas avoir plein de facteurs qui vont être hyper importants dans la récupération. Donc, bien entendu, la nutrition. Tu vas pouvoir jouer également sur tout ce qui va être l'hydratation, les électrolytes. Donc, les électrolytes n'apportent pas d'énergie pendant l'effort, mais vont juste venir compenser les pertes liées à la sueur, donc tout ce qui va être citrate de potassium, citrate de calcium, citrate de magnésium.
Beaucoup de citrate, du coup.
Beaucoup de citrate, exactement. Tu vas également pouvoir alcaliniser aussi grâce à l'alimentation, donc en basifiant avec tout ce qui va être les fruits, les légumes, surtout les légumes. Et qu'est-ce que tu vas avoir également ? Sommeil. On n'en parle pas suffisamment, mais un sportif qui dort moins de 7 heures, tu vas quand même limiter au niveau de tes résultats et même au niveau de la force et de la croissance musculaire, puisque tu vas avoir pendant la nuit les pics de l'hormone de croissance. Et il paraîtrait même que plus tu t'entraînes et plus cette fourchette de 7 à 9 heures de sommeil devrait s'augmenter. Donc, n'hésitez pas à faire des siestes.
Ah ouais. Chez le
sportif, surtout lorsqu'il y a des entraînements en bi-quotidien. Pas hésiter, une petite sieste de 20 minutes, c'est hyper important.
J'ai appris aussi que si on fait du sport de haut niveau,
oui,
y a beaucoup de stress oxydatif.
Oui, tout à fait.
Ça fait quoi dans le corps, ce stress oxydatif?
Alors, tu as une production de radicaux libres. De radicaux libres pendant l'effort, qui est bénéfique, c'est à partir du moment où elle n'est pas gérée, que ça va poser problème. Deux petites stratégies, moi, que je peux utiliser avec les personnes qui s'entraînent à très haute intensité régulièrement et qui n'ont pas justement... normalement, il faudrait qu'on... Après un entraînement de haute intensité, tu as fait par exemple une grosse séance de fractionné en course à pied... tu devrais mettre au moins 24 heures, voire même plutôt 35 heures de récupération avant de pouvoir te réentraîner. Mais juste avec le niveau, c'est pas toujours possible. Donc on va essayer de trouver des petites astuces. Bien entendu, là-bas, c'est le sommeil, la nutrition, etc. Mais en termes de micronutriments, moi, j'aime bien utiliser l'un des précurseurs du glutathion, qui est un des principaux antioxydants dans notre corps. Et souvent, le glutathion, tel quel, on a du mal un peu à l'assimiler. Et vaut mieux aller sur le NAC, par exemple, le N-acétylcystéine. Et voilà ce que je vais utiliser. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a un effet favorable au niveau de la récupération et de la gestion aussi d'une inflammation un peu disproportionnée. Et j'aime beaucoup aussi la grenade également, qui est un peu une molécule épigénétique qui va permettre de venir limiter un peu ces phénomènes inflammatoires, qui est aussi un protecteur au niveau cardiovasculaire. Parce que chez les sportifs de haut niveau, il y a une production accrue de radicaux libres qui est, qui est pas bien compensée. C'est d'ailleurs pour ça, des fois, les sportifs de haut niveau font un peu plus vieux que leur âge, parce qu'ils n'arrivent pas justement à compenser ce stress oxydatif. Et on regarde certains marqueurs de bilan biologique préventif, comme les anticorps LDL oxydés, vont être un peu explosés. Donc, c'est un des marqueurs que ce stress oxydatif est mal géré. Et la grenade va permettre aussi un peu de limiter ça. Donc voilà, NAC et grenade, j'aime bien les utiliser. Juste un petit point aussi pour les personnes qui nous écoutent. Le NAC, par contre, déconseillé à partir du moment où on va avoir tout ce qui va être SIBO H2S. Voilà, parce que le NAC contient aussi du soufre. Donc à
éviter. J'avais jamais entendu.
Voilà, c'est dans ce cas-là, je préfère le dire parce qu'on entend un peu... Enfin, c'est un des outils qu'on voit de plus en plus chez les sportifs, même en auto-complémentation. J'en ai pas mal qui arrivent au cabinet et qui utilisent maintenant de plus en plus le NAC, et c'est très bien. Il y a certains cas où voilà, ça va être déconseillé.
Une question trop bête,
oui.
Mais je préfère la poser quand même. Le plat favori du sportif, c'est peut-être poulet pâte. Pour avoir les protéines, les glucides, c'est bien au moment de post-entraînement.
Ouais, alors c'est vrai que on va parfois tomber dans la caricature avec poulet, pâtes, brocoli. Moi, j'essaye toujours de leur mettre beaucoup de variété au niveau des végétaux, mais aussi même les sources de féculents. Donc aller sur plutôt une alimentation vers le régime crétois ou méditerranéen qui va être beaucoup plus dense d'un point de vue micronutritionnel. Donc pas hésiter à varier avec quinoa, boulgour, pas faire des pâtes tout le temps parce que les
mais
intestins.
Mais pourquoi ils mangent des pâtes et du poulet de base?
C'est culturel.
Culturel.
Je pense que c'est oui,
à
c'est
cause
culturel.
De se dire ouais j'ai des protéines.
Ouais et puis tu vas
j'ai
surtout.
J'ai de l'énergie.
T'avais à une époque, on faisait beaucoup la veille de marathon, tout ce qui est pasta party, etc. On voit aussi là sur dans les sports d'endurance, sur le Tour de France, c'est beaucoup beaucoup de pâtes parce qu'ils ont des énormes besoins en termes de glucides. Sauf que c'est pas forcément l'alimentation qu'il faut retranscrire chez un pratiquant, même qui s'entraîne régulièrement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de modes dans l'alimentation du sportif. Il y a quelques années, ça a été le cétogène. Maintenant, c'est l'hyperglucidique à outrance. Voilà, c'est bien de remettre de la nuance. Et surtout, de regarder quand votre sportif vient vous voir, de quel niveau il part. C'est toujours ça. Et en fonction, t'adaptes tes recommandations.
Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour et compris l'importance de la force musculaire, il faut pouvoir savoir comment faire pour débuter intelligemment, sans se blesser. Donc Anouk, la coach sportive qu'on avait mentionnée là dans l'épisode précédent, elle avait recommandé de commencer par le renforcement musculaire au poids de corps seulement, avec des exercices sur une chaise, par exemple. Et toi, concrètement, quel exercice tu recommanderais pour commencer et puis après progresser?
C'est un peu compliqué comme ça de donner réellement, voilà, il faudrait que tu démarres par tel exercice, mais c'est peut-être déjà de se donner un cadre un peu cool, bienveillant, dans le sens, je prends mon agenda, mon planning, et je me dis ce moment-là, il est pour moi, et ça sera dédié à faire un renforcement musculaire. Maintenant, si ça, c'est pas suffisant pour se faire une routine, est-ce que je me fais pas accompagner par un coach sportif? Est-ce que je demande pas à un copain ou une copine de m'accompagner? Parce que c'est souvent toujours un peu mieux.
Une copine sportive peut-être.
Ouais, ou même juste une copine qui est pas sportive, mais à deux, on va réussir
à se motiver
ouais. Parce que souvent, il y a toujours ce truc de se dire, rentrer dans une salle de sport traditionnelle, les gens ont l'air de tous savoir quoi faire.
Ouais.
C'est pas forcément évident. Moi, je sais qu'il y a des patients, je les oriente parfois plus vers du coaching en one-to-one pour éviter qu'ils se blessent. Ça leur permet d'apprendre les mouvements. Alors, c'est pas de dire je garde un coach tout le temps, mais peut-être que j'investis sur 10 séances avec un coach une fois par semaine, et peut-être que l'autre séance, là, il me donnera un programme à faire à la maison. Et comme ça, j'arrive à être autonome. J'essaye toujours de rendre les gens les plus autonomes possible. Et après, en termes d'exercice, ça va vraiment dépendre du niveau de la personne. Mais effectivement, déjà, démarrer au poids de corps, c'est une très bonne chose. Et à mon sens, organiser quand est-ce que dans ma semaine, je prends ce moment-là, il est pour moi et j'y touche pas. C'est-à-dire, c'est comme si je devais aller voir...
J'ai la playlist, j'ai ce qu'il faut.
Ouais, j'ai une musique motivante. Et ce moment-là, il est à moi. C'est-à-dire, genre, c'est comme si je devais prendre l'avion. Je dois y aller, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose de fonctionner comme ça pour réussir à ancrer un peu des bonnes habitudes.
Et toujours dans la régularité.
Exercice régulier, exactement.
Dans plein de sports différents, on a besoin de force. Oui. C'est même la base de toutes les qualités physiques en général. Après, quand on a de la force, j'imagine que c'est plus facile de développer les autres choses comme l'endurance, la vitesse, les gestes techniques, même la souplesse. Mais pourtant, en fait, j'imagine qu'un coureur, un nageur, une danseuse, ils n'ont pas les mêmes besoins en force. Comment on adapte le renforcement musculaire selon sa discipline?
Alors, tu as raison, la force, c'est la base des fondations. C'est, si tu n'as pas de force, c'est un peu comme si tu construisais une maison sur du sable, ça ne va pas tenir très longtemps. Maintenant, ce que je peux te dire, tes coureurs, tu vas devoir passer plus de temps à faire du renforcement musculaire sur le bas du corps, travailler des petits muscles qui ont leur importance au niveau de la stabilité des hanches, des genoux, des chevilles. Tes nageurs, il va falloir que tu travailles beaucoup plus au niveau des exercices sur la stabilité des épaules, tout ce qui va permettre d'avoir un bon gainage aussi transférable dans l'eau. Et lorsque tu vas être danseur, ça va être un type de force un peu particulier qu'on appelle la mobilité. La mobilité, en fait, c'est le fait de réussir à créer de la force dans des très grandes amplitudes. Voilà, c'est ça la mobilité. Par exemple, les danseurs, ils vont devoir avoir tout ce qui va être...
Les jetés.
Les jetés, ou même ils vont devoir être très souples au niveau de leur chaîne postérieure, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Et donc, ils vont devoir faire spécifiquement des exercices difficiles dans des postures où le muscle est déjà en étirement. Voilà, c'est pour donner une idée de ce que c'est la mobilité. Et après, autour de ces séances un peu spécifiques, tu vas toujours avoir des blocs qu'on va retrouver un peu partout, comme les gros exercices polyarticulaires, comme le squat, le développé couché ou le soulevé de terre.
En parlant de spécificité pour les sportifs, il y en a certains aussi qui sont véganes ou végétariens. On fait quoi quand on a ce régime-là? Parce que les protéines, c'est peut-être un peu plus compliqué. J'imagine qu'il y a d'autres choses.
Ouais, t'as raison. Alors, c'est des modèles alimentaires qui vont demander... Je dis toujours à mes patients, ça va vous demander un peu plus de charge mentale. Mais c'est totalement faisable. Pour le régime vegan, c'est quand même un peu plus complexe. Et il va falloir quand même aller, à mon sens, beaucoup sur des substituts comme les protéines en poudre végétales. Le modèle végétarien, voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout les apports en protéines, et c'est un modèle alimentaire où tu vas quand même avoir beaucoup plus de glucides. Donc moi, je leur apprends toujours, penser les protéines, les avoir très régulièrement dans votre alimentation, aller sur 4 portions par jour, en tout cas si vous êtes dans un sportif régulier qui s'entraîne minimum 4 jours sur 7, vraiment faire attention aux apports en protéines. Et donc, végétarien, pensez à... il n'y a pas que les œufs, vous avez le tofu, le soja texturé, les steaks de soja, les mélanges de légumineuses. Et c'est vraiment les apports en protéines où il va falloir faire attention. Et pourquoi pas compléter avec tout ce qui va être protéines végétales en poudre. À mon sens, c'est même indispensable dans ce genre de modèle alimentaire. Et une molécule dont on a parlé, mais qu'on n'a pas lorsqu'on va être sur ce type de régime, c'est la créatine, puisque c'est contenu dans les protéines animales. Donc,
comment on fait pour avoir de la créatine vegan?
La créatine, comme c'est un acide aminé de synthèse, c'est pas produit par... la production ne vient pas d'origine animale. Voilà. Donc, on peut supplémenter créatine sans problème.
Breveter, c'est mieux?
Breveter, tout à fait.
Pour que ce soit efficace.
Oui, j'ai perdu le label.
Créature.
Exactement. Voilà. C'est un label, un label allemand.
Ouais, tout à fait. Et c'est fabriqué en Allemagne.
Oui, tout à fait. Ouais.
Je pensais à autre chose. On dit souvent que les végétariens ou les véganes, ils doivent absolument avoir de la B12. C'est aussi dans les protéines.
C'est toujours délicat parce que les omnivores aussi vont avoir aussi les manques de B12.
Donc à tester, à faire tester.
Ouais, complètement. Moi, je suis assez à regarder l'individu dans son ensemble et voilà, faire attention. C'est vrai qu'on dit toujours aux végétariens, faire attention B12, l'iode, les oméga-3, le fer. Mais il y a des modèles alimentaires omnivores où tu vas aussi avoir ces déficits. Donc oui, selon les recommandations officielles, c'est encore plus important de faire une vérif via un bilan biologique. Mais encore une fois, j'ai des végétariens qui sont totalement équilibrés, donc ça
dépend des personnes. Ouais,
ça dépend. Ouais.
Donc pour résumer, on a fait le tour de beaucoup de choses, donc on va essayer de faire en sorte que les gens puissent pouvoir dormir moins bête et que ce soit bien ancré dans les esprits. Si tu devais classer les nutriments pour préparer une équipe de sport efficace,
okay.
Qui serait l'attaquant, on va dire le nutriment rapide, voilà.
Ouais.
Le défenseur, donc ouais. Protecteur, et le coach, celui qui va réguler.
Okay. J'ai le droit à des réponses multiples.
Tu peux choisir, oui. Tu peux choisir qui tu vas acheter pour ton équipe.
Ok, ça marche. Donc, les attaquants, je mettrais les glucides pendant l'effort. Tout ce qui va être boisson d'effort, maltodextrine, bien dosé. Il faut savoir que souvent, il y a des a priori par rapport à ça, mais pendant l'effort, tu sécrètes très peu d'insuline. On en a parlé avant, mais l'insuline, c'est bien post-effort. Mm-hmm. Il va y avoir une sécrétion, mais pendant l'effort, ton insuline est au plus bas, parce qu'en fait, ce qui fait rentrer le sucre à l'intérieur des cellules, c'est tout ce qui va être les catécholamines, l'adrénaline, ce genre de choses, la contraction musculaire. Donc, quand tu prends du sucre à l'effort, tu ne peux pas, t'as pas les procédés de mise en réserve. Voilà, ça va tout de suite être utilisé comme énergie. Donc.
C'est pour ça que les marathoniens, ils ont du sucre comme ça en tube.
Ouais, carrément, carrément. Ça va permettre de rester à une vitesse beaucoup plus élevée lorsque tu vas être majoritairement sur ce type de substrat. Donc en attaquant, j'ai dit les glucides pendant l'effort, créatine aussi en booster pour synthétiser plus rapidement l'ATP sur les efforts courts et intenses. Dans les défenseurs antioxydants pour gérer le stress oxydatif autour, mais pas à des doses pharmacologiques parce que ça peut avoir des effets néfastes au niveau des procédés de surcompensation. Tout ce qui va être oméga-3 pour moduler l'inflammation.
Ouais, tu disais les pompiers.
ouais, c'est ça, c'est nos pompiers à nous. Et les coachs, ça va être tous les cofacteurs dont on a parlé, la vitamine D, le zinc, le magnésium. On peut mettre également les molécules qui vont avoir un effet épigénétique, comme le curcuma, la grenade. Et puis moi, je rajouterais également les préparateurs mentaux.
Ah oui, c'est important dans le sport, on n'en parle pas souvent.
Ouais. Je trouve qu'il y a un complément qui est très sous-estimé dans le sport, c'est les probiotiques.
On a d'ailleurs un complexe probiotique pour les sportifs.
Ouais, exactement, exactement. Et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Faut savoir que dans les facteurs de performance, tu vas avoir trois choses. Déjà, le fait d'avoir des compétences innées, voilà, acquises, c'est la génétique. Le fait de réussir à tenir très longtemps un volume d'entraînement important. Il y a tout ce qui va être la gestion du stress. Et on en rajoute aujourd'hui, on est en train de proposer un autre facteur de la perf, c'est le microbiote intestinal. Et qu'est-ce qui va permettre à ton microbiote de pouvoir rester très compétitif aujourd'hui, c'est aussi les probiotiques avec les bonnes souches. Donc, à mon sens, c'est quelque chose à prendre en compte chez le sportif et qu'on ne parle pas suffisamment, c'est les probiotiques.
En parlant d'équipe de sport, oui. Du coup, on disait tout à l'heure que tu avais accompagné des athlètes de haut niveau. C'est quoi leur méthode d'entraînement pour intégrer le renforcement dans leur routine? Tu disais que c'est tellement important. À quel point c'est important?
Eh bien, en fait, sur leur planning hebdomadaire, ils ont vraiment des séances dédiées à la préparation physique généralisée, donc au renforcement musculaire, où ils vont faire surtout beaucoup de mouvements polyarticulaires. Donc voilà, tout ce qui va être soulevé de terre, squat, développé couché. Ils vont aussi, et c'est là mon rôle en fait, c'est de leur faire comprendre qu'il y a l'entraînement, c'est l'étincelle, mais aussi surtout la partie récupération. Et c'est là où moi, je vais avoir vraiment beaucoup de boulot, dans le sens où tu vas encore avoir trop de sportifs de haut niveau qui vont seulement s'hydrater à l'eau pendant l'effort. Et juste de leur faire comprendre que avoir des bons apports en glucides pendant l'effort, pas sur des doses non plus hyper glucidiques, mais juste ce qu'il faut, mais ça va leur permettre de pouvoir mieux récupérer et de se rentraîner très rapidement à haute intensité les jours suivants, parce que ça va maximiser leurs réserves en glycogène. Du coup, j'ai un peu dévié de ta question, mais dans les routines,
mais
effectivement.
Déjà, si tu me dis qu'ils ont des séances dédiées, c'est déjà super. Et si eux, maintenant aussi, ils se rendent compte que c'est vraiment important dans leur routine.
Ouais, même sur les sportifs de haut niveau, ils sont confrontés à cette cacophonie alimentaire qu'on retrouve de plus en plus. Donc, c'est là où on essaye, effectivement, enfin, où j'essaye de remettre un peu de cadre et d'échanger aussi avec leur staff, parce que des fois, on peut être aussi en dissonance avec eux, parce que tu vas vraiment avoir la culture du no pain, no gain, c'est-à-dire plus je m'entraîne, plus je vais pouvoir gagner, alors que c'est pas plus je m'entraîne, c'est
mieux je m'entraîne.
C'est mieux je m'entraîne, totalement. Ouais.
C'est même pour nous,
c'est ça.
Mieux je m'occupe de moi-même, mieux c'est.
Tout à fait.
Oui, et pour tous les autres qui finalement ne sont pas sportifs de haut niveau et ne dédient pas autant de temps à la pratique sportive, parce que ce n'est pas notre métier, hein, de quoi on peut s'inspirer de leur pratique ? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme inspiration pour l'adapter à notre propre entraînement ?
Alors, je l'ai dit, avoir une routine régulière.
Dans l'agenda.
Voilà, dans l'agenda. Je pense que c'est plus favorable de faire parfois un 5 fois 10 minutes de course à pied ou même de bouger entre... Tu travailles dans un bureau, derrière un bureau. Faire un peu de pompe inclinée contre un mur, l'exercice qu'on a parlé de la chaise, ce genre de choses, ça sera beaucoup plus bénéfique que de te dire seulement une fois dans la semaine, je vais faire, bon là j'ai pris 5 fois 10 minutes, je vais faire une fois 50 minutes. Ça sera beaucoup plus bénéfique de se mettre en mouvement de façon régulière. Après, être vigilant sur la nutrition que tu vas avoir avant et après l'effort. Il y a encore trop de personnes qui vont faire le jeûne intermittent, donc je saute mon petit-déj, et puis à midi j'arrive, je vais aller m'envoyer une séance à haute intensité de crossfit par exemple. Et au final, tu vas passer à côté des bénéfices de ton entraînement. De une, tu ne vas pas te sentir bien. Et de deux, tous les mécanismes de surcompensation, tu vas un peu passer à côté. Donc moi, j'en dis toujours, prenez au moins une compote avant de vous entraîner. Ça sera beaucoup plus bénéfique, surtout si vous voulez répéter ça dans la journée. Donc je pense que c'est surtout à ça qu'il faut essayer de s'inspirer. C'est quelle nutrition va me permettre que ma séance devienne bénéfique.
Et en plus de ça, ils ne sont pas tout seuls.
C'est ça.
Ils ont toute une équipe, les sportifs de haut niveau.
Ouais. Exactement. Et je pense que ça a vraiment un intérêt d'investir avec un coach bienveillant qui va montrer comment il faut faire pour faire les exercices comme il faut.
Parmi les athlètes que tu as accompagnés déjà, est-ce que tu peux me donner peut-être un exemple ou plusieurs, c'est comme tu veux, d'un ou d'une sportive qui a particulièrement misé sur le renforcement musculaire pour améliorer sa performance ou sa longévité sportive dans sa carrière, ou bien au contraire, on peut dire quelqu'un qui l'avait complètement négligé et qui en a payé les frais, quelqu'un qui a complètement changé de stratégie, genre qui négligeait complètement, je déteste la muscu et en fait maintenant c'est ma base.
Ok, alors je vais pas te donner des noms de personnes que j'ai accompagnées, mais vraiment pour que ça parle au plus grand nombre. Une personne qui a vraiment mis au cœur la préparation physique, le renforcement musculaire pour performer le plus longtemps possible. Je pense que Cristiano Ronaldo est un bon exemple. À 40 ans, il fait encore partie de l'équipe du Portugal, est toujours titulaire. C'est vraiment l'exemple qui vient en tête. En tennis, Novak Djokovic a aussi... souvent mis en avant toutes ces stratégies un peu holistiques pour réussir à performer. Actuellement, il doit avoir 38 ans, donc c'est des exemples qui viennent en tête. Toujours dans le tennis, quelqu'un qui a un talent monstre et s'il avait, à mon sens, un peu pris plus soin de son corps, lui aurait permis de limiter un peu les blessures, Yannick Kyrgios. Et un exemple aussi qui va parler à beaucoup de monde, c'est le recordman du monde en décathlon, Kevin Mayer, le français, qui, je l'ai écouté dans un podcast récemment, disait que ben lui, la musculation, c'est pas trop son truc. Il a besoin que ça soit très ludique. Mais vu la discipline qu'il fait, s'il passe pas énormément de temps à faire de la prévention des blessures avec, sous forme de renforcement musculaire, ben il pourrait tout simplement pas performer à haute intensité pendant 2 jours sur 10 épreuves phénoménales. Voilà.
Et peut-être un dernier exemple où la micronutrition aurait fait la différence dans un moment clé, je ne sais pas, une compétition, une blessure, de la préparation.
Alors, pas forcément micronutrition, mais juste même macro, mais sous une forme très bien tolérée. Moi, j'insiste beaucoup, c'est sur les apports en glucides pendant l'effort.
Ouais, tu l'as déjà répété, je pense que c'est clair.
Glucides pendant l'effort, tout simplement, ça n'a pas qu'un rôle énergétique. Alors oui, c'est un rôle énergétique dans le sens, ça, en ayant suffisamment de glucides pendant l'effort, ça te permet de limiter la baisse de tes stocks de glycogène, c'est-à-dire tes réserves en sucre dans tes muscles, et la baisse de ces réserves en glycogène va avoir un impact sur ta fatigue. Donc, plus ces stocks vont être abaissés tout au long de ta semaine et plus les derniers entraînements du jeudi, vendredi vont être compliqués. Donc voilà, ça a un rôle énergétique, mais ça a aussi un rôle fonctionnel dans le sens ça va préserver l'immunité. Tu vas également préserver ton étanchéité intestinale. Ça va nourrir les cellules de tes intestins. Ça va également avoir un rôle au niveau de la nutrition cérébrale parce que ça va t'empêcher d'utiliser d'autres acides aminés comme la leucine, l'isoleucine, la valine. Et tu vas garder tout au long de ta semaine une bonne production en neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline, sérotonine. Et donc voilà, les glucides à l'effort n'ont vraiment pas qu'un rôle énergétique, ils ont vraiment un rôle aussi fonctionnel et qui est essentiel. Et on diabolise beaucoup les glucides, mais il faut remettre un cadre. Et à partir du moment où t'entraînes régulièrement, eh bien, il va falloir prendre soin de ces apports en glucides, notamment sous la forme de boissons d'effort.
Bah, merci beaucoup, Alban, pour tous ces conseils, ces explications qui étaient très concrètes parfois. Moi, en tout cas, je retiens que la force, c'est pas seulement une affaire de performance ou juste pour les athlètes de haut niveau, c'est pour tout le monde, pour vivre plus longtemps. J'ai hâte de te rencontrer à l'EHPAD et de voir ton arrivée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et nous laisser un petit commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout de votre force avec Sonne Naturelle. Petite question avant que tu partes. Je ne sais pas si je te l'avais posée, mais j'aimerais bien savoir... Qu'est-ce que tu prends comme complément alimentaire pour toi personnellement ?
J'ai forcément une boisson d'effort quand je m'entraîne.
Ouais.
Donc j'ai forcément des glucides pendant l'effort sous la forme de maltodextrine. J'ai du magnésium également le soir.
Quelle forme ?
Moi, j'ai sous la forme de citrate.
Ok.
Voilà, je prends sous la forme de citrate parce que c'est celui qui va le plus jouer sur le relâchement musculaire. J'ai du zinc également à forte dose. Je suis au moins, je suis entre 40 et 50 mg. J'ai un multivitamine, oméga 3 non.
Ouais, ok, c'est intéressant. Et le zinc à haute dose, c'est parce que il y a une cause ou
c'est vraiment un gros régulateur au niveau hormonal. Et plus tu vas être proche des 1000 microgrammes par litre, et c'est souvent quand même sur des hautes doses que sur les 15 ou 20 milligrammes qu'on peut entendre, et ça permet de maintenir des bons niveaux de testostérone. Donc j'ai déjà 37 ans et du coup voilà, il y a sur les sportifs qui s'entraînent de façon régulière et notamment à haute intensité, on dirait pas comme ça, mais ils ont plutôt des niveaux de testostérone qui sont un peu plus faibles de par le stress créé par l'entraînement. Donc voilà.
Ok, c'est intéressant. Merci beaucoup.
De rien.